Je lirai d'abord dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Les versets 8 à 16. Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, rejoins Hazaël pour tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat et d'Abel-Méola, pour prophète. Et dans l'Épître aux Romains, nous lisons au chapitre 12. Les deux premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ta parole, notre Dieu, est source de vérité, éclaire nos routes par ta vérité. Voilà, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, nous nous scandalisions de l'absence de Dieu dans des situations comme celle du petit Ryan, vous savez, qui était tombé dans son trou, ou encore du cyclone Batsirai qui a endeuillé Madagascar sur son passage, et nous nous interrogions Dieu sur sa présence avec les humains, sur son amour, sur sa capacité à intervenir dans notre histoire. Ce matin, nous rejoignons Élie dans sa méditation solitaire au seuil de sa caverne pour constater que les réflexions qu'il menait sur le sens de la présence de Dieu dans le monde ressemblent pour beaucoup à nos propres questions et conservent également toute leur actualité. Alors il me plaît à penser que Dieu se manifeste à nous comme une musique subtile qu'il faut savoir percevoir, entendre, discerner à travers les bruits du monde. Et en ce moment, les bruits se font lourds, se font forts et nous empêchent souvent de réfléchir. Mais voilà, c'est à nous ce matin en tout cas à faire l'effort de se donner une chance d'entendre ce que Dieu veut nous dire à travers ces bruits du monde. Et c'est d'autant plus important de tendre l'oreille, déjà que dans notre passage, une révélation est sur le point d'être donnée à Élie, et bien sûr à travers lui, à nous qui lisons son histoire presque 3000 ans plus tard. Une histoire qui nous rejoint si facilement dans la nôtre. Oui, il y a dans notre passage au moins deux signes qu'une révélation importante sur Dieu est sur le point de se produire. Le premier de ces signes, c'est le fait que notre passage se situe sur le mont Sinaï, ce mont de la rencontre, de la révélation par excellence. Le second signe, qu'une vérité est sur le point de se dire, de se révéler, peut-être de manière un peu plus discrète, c'est un détail de l'histoire elle-même, cette histoire d'Élie. En résumé, son histoire récente, c'est qu'il arrive seul à la montagne du désert, Il arrive les mains tachées de sang, il vient de faire exécuter 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Le culte de Baal et d'Astarté, rival du culte rendu au Dieu d'Israël, était encouragé par le pouvoir royal, par le roi Achab et sa cruelle femme Jézabel. Et justement, en entendant la nouvelle du massacre, Jézabel lance une fatwa sur ce pauvre Élie et s'assure qu'il va mourir. Elle lui assure que dans les heures, les jours qui viennent, il va mourir. Alors Élie prend la fuite, évidemment, et puis apeuré, épuisé, affamé, désespéré, déprimé, suite à son échec et aux menaces qui pèsent sur lui, il se couche et il réclame la mort à Dieu. Mais un ange lui apparaît, lui donne à manger et à boire, et il l'envoie donc sur la montagne de Dieu, sur le mont Horeb. Et dans le texte que nous avons lu, donc le voici arrivé, et la nuit dans son sommeil, Dieu s'adresse à lui, il l'interroge sur sa présence ici. Mais de fait, la phrase qui est traduite en français par « Que fais-tu ici, Élie ?» est quelque chose qui ne va pas, parce que c'est l'ange qui l'a envoyé là, donc Dieu serait censé être au courant de ce que Dieu fait là. Donc c'est autre chose. Cette phrase, en fait, dans sa traduction littérale, elle est un peu différente en hébreu. L'hébreu nous dit « Quoi entre toi et moi, Élie ?» Quoi entre toi et moi ? Vous entendez cette phrase qui est l'écho de cette question que pose Marie, que la réponse de Jésus à Marie qui demandait à Jésus de se révéler à travers un miracle dans les noces de Cana, quoi entre toi et moi ? Ou quoi de toi à moi ? On pourrait presque traduire plus littéralement, presque encore comme ça. Bref, cette phrase est en relation avec la révélation de Dieu, avec un Dieu qui veut se dévoiler aux hommes, faire comprendre à Élie, en tout cas, quelque chose d'important sur la manière de comprendre cette divinité qu'il recherche et qu'il veut absolument servir. Dieu qui se révèle à son prophète, alors qu'il est au plus bas, alors qu'il est accablé par le découragement, voilà qui nous dit déjà que c'est souvent dans ces moments-là que Dieu choisit non seulement par sa parole de nous nourrir, de nous parler, de nous consoler, de nous relever, mais il cherche surtout dans ces moments-là à nous apprendre quelque chose de nouveau, de profond, de vrai, sur lui, sur nous-mêmes et sur notre relation aux autres. Alors écoutons encore un peu cette histoire dans ce qu'elle veut nous transmettre de nous-mêmes, d'abord en observant Élie, et sur Dieu, sur ce qu'il révèle de lui à Élie. Observons d'abord un instant les états d'âme du prophète de Dieu devant son échec et les conséquences que ses choix ont amenées dans sa vie. Enfermé dans sa grotte, replié sur lui-même comme un homme égaré sur le chemin de la vie, Élie, on le sait, était à la recherche de ce Dieu auquel il avait voué sa vie, mais qui lui restait pourtant inaccessible. Il est perdu sur les chemins du monde. Il croyait avoir fait une action d'éclat en tuant les prophètes de Baal. Mais voilà, le sort, les circonstances, tout semblait se retourner contre lui. Et il se retrouvait là seul. Il insiste sur cette solitude, déprimé et plein de doutes sur lui-même et sur Dieu. « Je ne vaux pas mieux que mes pères », etc. Pourtant, il avait cru bien faire pour contenter Dieu, auquel il croit, ce Dieu qui lui est cher au cœur. Mais en fait, la question qui aurait pu se poser ici, c'est qui lui avait ordonné ce massacre ? Dieu ne lui avait rien dit, c'était rien passé de particulier, il n'avait même pas consulté Dieu à aucun moment qui précédait le massacre, pour au moins vérifier qu'il avait la bonne idée. Et en plus, ça n'a pas obtenu le résultat qui était escompté jusque-là. Tous ces morts, et voilà, même pas de bénéfice à ça. Aucune satisfaction. Tous ces morts pour rien. Et il voulait prouver donc peut-être la supériorité de son Dieu sur tous les autres, c'était raté. Il avait donné la mort à des prophètes païens, la reine cherchait à le faire mourir, et en plein désespoir, il espérait lui-même s'en sortir en réclamant la mort, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Bref, c'est un passage où la mort plane sous toutes ses formes et semble même le frôler de près. vient quand même d'assassiner plus de 800 personnes au nom de Dieu. Et il faut redire encore quand même que c'est Élie qui a pris l'initiative de l'assassinat. Aucun ange ne lui serait apparu à aucun moment sur son chemin pour lui demander de faire ça. Aucun signe apparu dans le ciel pour lui commander ce massacre. Alors peut-être qu'Élie a cru bien faire en tuant ses prophètes. À ce moment-là, le peuple convertirait peut-être, tout le peuple se tournerait d'une manière générale vers Dieu. Il croirait en son Dieu. Peut-être qu'avec ce carnage sur les prophètes de Baal, lui-même deviendrait le héros de Dieu et qui œuvre pour la vérité avec ce peuple qui croirait en lui maintenant. Peut-être a-t-il pensé que ce massacre changerait complètement, radicalement, la donne spirituelle en Israël. Et voilà, qu'un grand réveil allait se produire suite à ce qu'il avait produit, ce qu'il avait fait. Mais voilà, le peuple ne s'est pas converti. Élie est resté seul et Jézabel, toujours puissante, a voulu le tuer. Rien n'est donc ressorti de cet assassinat, rien de fécond, aucun changement réel. C'est donc un homme qui a échoué, qui est là, sur cette montagne sacrée. Et maintenant, l'angoisse le tenaillait. La perspective de sa propre mort semblait faire écho au silence apparent de Dieu, et l'idée même de Dieu semblait s'associer à celle de la mort. Dieu lui-même serait-il mort ? Peut-être n'avait-il jamais existé ? Serait-il une illusion accessible seulement dans ses rêves ? Bien sûr, nous reconnaissons dans ces pensées que nous attribuons à Élie celles qui peuvent un jour se poser à n'importe quel humain pris dans l'angoisse d'une situation qu'il ne comprend pas ou qui lui semble injuste. Un peu ce qui s'est passé il y a 15 jours avec le petit Ryan. Vous savez, c'est ces moments de nos vies où la solitude peut tellement nous toucher, que tellement nous atteindre, et qu'elle nous rappelle à nos limites humaines. Ces périodes où l'angoisse se fait pesante et le silence de Dieu épais, cette expérience du prophète, en tout cas, nous l'avons tous vécue, je peux m'engager à ça. Si ce n'est pas nous-mêmes, c'est quelqu'un de proche qui a vécu ça, ou c'est quelqu'un de notre famille, mais tous, à un moment donné ou à un autre, on est amené à vivre des moments comme cela, enfin il me semble en tout cas. Et même lorsque tout va bien, on n'est pas épargné. Regardez ici Élie, qui depuis 3 ans ne connaît pas la peur, là tout d'un coup s'effraie parce que Jézabel menace sa vie. Il s'enfuit dans le désert et il sombre d'un coup comme ça dans la dépression totale. Oui mes amis, fatigué physiquement, épuisé moralement et se sentant menacé, Élie, ce champion de Dieu, est devenu d'un coup d'un seul un candidat sérieux à la dépression. Et peut-être parce qu'il a choisi dans ce moment de sa vie d'accumuler des émotions, des soucis, tous ensemble. La peur, la rancune, la colère, l'isolement, l'inquiétude, le doute, l'angoisse, la perte de sens, ça fait beaucoup tout ça pour un seul homme et d'un seul coup. Et c'est peut-être ce qui s'est passé là. Et la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il avait les mêmes problèmes que nous et probablement la même tentation pour les gérer que nous. Et là, on l'a entendu, il était si déprimé qu'il voulait mourir. Alors ça paraît peut-être un peu extrême et pourtant, dans ces moments-là, n'est-ce pas une pensée presque naturelle ? Et en écrivant ces mots, je me suis dit non, en fait, ça ne doit pas être naturel, ça doit être plutôt... un sentiment humain et pas naturel, parce qu'un animal n'envisage pas sa propre mort, ne se dit pas tiens si je pouvais mourir ou si quelqu'un pouvait me faire mourir. Donc c'est pas tant naturel qu'un sentiment totalement humain que celui de, dans ces moments-là, de détresse, vouloir mourir. Alors pourquoi se mettre dans un tel état? Bien sûr parce que parfois les circonstances sont tellement difficiles, ces circonstances qu'on traverse, qu'elles nous paraissent complètement insurmontables, mais la plupart du temps, et le plus souvent, c'est simplement à cause de nos mauvaises pensées, nos pensées toxiques, nos pensées négatives, Parce que celles-ci provoquent toujours des émotions, et que si ces émotions sont négatives, on peut alors si facilement sombrer dans la dépression. Nos sentiments naissent de notre façon d'interpréter la vie. Voir constamment les choses d'un point de vue négatif ne peut que nous tirer vers le bas. Alors la Bible nous enseigne que pour se débarrasser de ces pensées nocives, il faut apprendre à voir le monde autrement. La Bible nous parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Comme dans la vie, tout s'apprend, pour surmonter la dépression lorsque nous la traversons, nous devons apprendre à corriger nos pensées et nos attitudes pessimistes face à la vie. Ça s'apprend. Il s'agit de passer par cette voix intérieure qui pleure et qui ressasse l'échec, « je ne suis pas meilleur que mes pères », à ce murmure qui se fait entendre dans le silence et qui redonne sens et direction, « va, reprends ton chemin, repars dans le désert ». Voir les choses du bon point de vue, celui de Dieu, voilà déjà une clé pour vaincre la dépression. Une seconde clé pour nous aider à sortir de nous-mêmes lorsque ça ne va pas pourrait être d'être assez souple et ouvert pour changer de point de vue sur Dieu lui-même, sur ce qu'on croit savoir de Dieu. Vous savez, autant par sa démarche et son attitude, ses enseignements, Jésus présentait un Dieu doux, humble, gracieux, compatissant, plein d'amour pour tous les hommes, autant Élie, par son attitude et ses massacres, comprenait Dieu comme un Dieu jaloux, vengeur, violent. Et voilà donc la théologie qui animait les réflexions de notre héros alors qu'il s'attend à une manifestation de Dieu dans sa caverne. Et dans notre passage, on peut imaginer, là on est au 9e siècle avant Jésus-Christ, que c'est une théologie qu'il partageait avec beaucoup. Et c'est tout naturellement donc qu'il s'attendait à des manifestations de Dieu qui soient brutales, évidentes, bruyantes, violentes, de cette divinité telle qu'il la comprenait. C'est une évidence. Mais voilà, avec pédagogie, Dieu a voulu faire avancer Élie dans ce que son prophète imaginait de lui. Il a voulu le déplacer dans sa théologie. Alors Dieu n'est dans aucune manifestation de violence, dans aucun feu, aucun bruit, il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans les tremblements de terre, car Dieu n'est pas dans ce qui fait violence aux hommes et les terrorise, mais il est dans ce qui les fait vivre. Et au cœur de ce souffle doux et silencieux, un murmure, une parole, une direction. Et c'est précisément une direction que le prophète reçoit, une mission, un nouveau sens. Tu ne massacres plus parce que c'est ce que tu voulais, tu vas oindre parce que c'est là que je t'attends. Lève-toi, pars vers le désert de Damas, où tu vas oindre les prophètes et les rois, bien plus que de massacres inutiles, c'est ça dont le monde a besoin. Cette voix qu'il entend dans le murmure du silence, du coup lui redonne un sens, dans tous les sens, c'est-à-dire aussi une direction. Sa propre vie, qui n'avait ni valeur ni sens, retrouve du coup une orientation pour sa vie dans ce murmure doux, subtil et léger. Cette parole, cette direction pour sa vie, cette reconnexion avec le sens de sa vie, il la retrouve non pas dans le fracas d'événements tout extérieurs, mais dans le murmure doux et subtil d'une voix intérieure. S'il doit y avoir une révélation pour Élie et pour nous, c'est là qu'elle se trouve. Voilà qui devrait, en tout cas chacun et chacune, nous encourager à travers les bruits du monde à prendre le temps de la pause, à écouter cette voix intérieure et à lui faire confiance. Parce que c'est ainsi que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, parle à nos cœurs et à nos intelligences dans le murmure délicat d'un souffle subtil, doux et léger. Amen.